1. Introduction. Nous nous trouvons devant un monument qui marque notre paysage urbain depuis de nombreux siècles, El Fadri. L'histoire de cette tour-clocher remonte à 1437, date à laquelle sa construction fut décidée par le Conseil de Castellón. C'est justement cette année-là que l'église voisine de Santa Maria, qui occupait l'emplacement de l'actuelle co-cathédrale, fut achevée. Et c'est ainsi que débuta la longue histoire de sa construction. Jusqu'en 1459, il n'existe aucune trace relative à ses travaux de construction. Mais à cette date, certaines sources documentaires nous informent que les travaux commencés par le maître d'œuvre Saera furent interrompus. 132 ans plus tard, la construction reprit son cours lorsque le projet du maître d'œuvre Damia Méndez fut sélectionné. Joan Roma et Joan Freich furent alors engagés pour construire le clocher. Cependant, un an plus tard, les travaux furent une nouvelle fois mis aux enchères. C'est ainsi qu'à partir de 1593, le chantier se poursuivit sous la direction de Francesc Alianza de la Lancha et de Guillem del Rey, et ce, jusqu'en 1604, année officielle de l'achèvement de l'édifice. La partie supérieure de la rotonde n'a cependant été achevée que l'année suivante. La construction d'El Fadri a suivi le modèle d'autres tours, comme la tour Miguelete de Valence, et encore les tours de Buriana et de Sant Mateu, dans l'actuelle province de Castellón. Il s'agit d'exemples de tours octogonales qui, selon l'architecture de l'époque, étaient dépouillées de tout ornement. Comme on peut le constater, il s'agissait, dès le départ, d'un projet municipal, conçu séparément de l'église, d'où le nom de « Fadri », qui signifie « célibataire » en français. Cet adjectif fut utilisé par le poète local Bernat Artola, qui l'a baptisé ainsi au XXe siècle. L'édifice mesure 54 mètres de haut. En l'examinant de plus près, on peut distinguer 5 corps séparés par de fines saillies horizontales en pierre. Les deux corps inférieurs sont massifs et plus hauts que les autres, si bien que pour accéder à la première salle, il nous faudra gravir la section la plus longue de l'escalier en colimaçon. Entre les troisième et quatrième corps se trouvent 3 salles, celle de l'horloge, la prison et la maison du sonneur de cloche. La cinquième et dernière section est une pièce ouverte où se trouvent les cloches. En outre, sur le toit terrasse, il y a une rotonde à 3 colonnes, recouverte d'un toit en tuiles qui protège non seulement la cloche de l'horloge, mais aussi les 2 autres cloches qui marquent les quarts d'heure. Si l'on regarde les murs de la partie inférieure de la tour, on peut voir quelques inscriptions en rouge, où se détache l'année 1667. Cette inscription fait référence à une manifestation publique de soutien à la Maison d'Autriche, et donc contre ses détracteurs. À cette époque, Charles II était encore mineur, et c'est sa mère, Marie-Anne d'Autriche, qui assurait la régence d'Espagne. Examinons maintenant la porte de plus près. Elle a été sculptée en 1604 par le tailleur de pierre Johann Ganau, l'un des maîtres français qui a également réalisé les 8 gargouilles décorant la corniche. La même année, Mohsen Balthasar Brunel écrivit en latin, au-dessus du seuil de la porte, le texte attestant de la fin officielle des travaux. Ce texte fait mention de Philippe III, le monarque régnant, ainsi que de diverses autorités locales. La sculpture que nous voyons dans la niche est un ajout plus récent. Sur le fronton, on peut voir 3 blasons, celui de la ville de chaque côté et, au centre, le blason couronné de l'étendard Señera Royal. Une fois entré dans la tour, on empruntera l'escalier en colimaçon. Certaines sources documentaires nous apprennent que cette première volée de marche a dû être refaite, car le conseil ne l'aimait pas. Les murs et l'escalier ont été construits en même temps, de sorte que chaque marche repose sur la précédente à partir de l'axe central, dont la section est circulaire. De cette manière, l'extrémité la plus large de la marche était encastrée dans le mur et s'insérait dans la boîte de maçonnerie qui avait été préparée dans le mur. Une fois le tour complet effectué, une meurtrière a été percée pour éclairer l'escalier. Ces petites fenêtres verticales sont celles que l'on voit alignées au-dessus de la porte. Montons maintenant sans nous presser. Il faut faire attention de ne pas glisser et de ne pas se cogner la tête contre la porte de la première salle. Pour accéder à la première salle, on compte 78 marches sur un total de 193. L'ascension en vaut bien la peine, car nous pourrons découvrir l'intérieur de ce bâtiment unique, déclaré bien d'intérêt culturel, un statut de protection relevant du patrimoine historique espagnol.